Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h03, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, Jérôme Lavrieux, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Avec vous également au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir à tous nos débats. Et dans un instant, cette stat de France Travail, un tiers des chômeurs ne recherchent pas d'emploi de manière active. Est-ce que ça vous choque? 13h30, ce sera le meilleur de jour sur RMC, le zapping. On parlera notamment du très mauvais état de nos routes et puis de François Ruffin également. On parlera aussi de petit déjeuner. À 14h, on compte près de 900 villages vacances en France. Mais passer ses congés dans un village vacances, est-ce pour vous l'enfer ou le paradis? Il y aura RMC Conso à 14h30 avec Charlotte Méritant. On va vous donner des astuces pour acheter des produits d'hygiène beaucoup moins chers. Et puis on terminera avec Vincent Cerussi, notre humoriste. Cerussi n'a pas tout compris.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le constat du jour. Il a été fait par France Travail, l'ex-Pôle emploi. Selon l'organisme, un tiers des chômeurs ne seraient pas en recherche active de travail. 17% des chômeurs ont été sanctionnés, tandis que 18% ont eu besoin d'être redynamisés. Concrètement, Rémi, ça représente combien de personnes?
Alors, en catégorie A, avec 3 200 000 personnes sans aucune activité et inscrites à l'heure actuelle à France Travail, ex-Pôle emploi, cela fait environ 500 000 personnes qui ne chercheraient pas un emploi avec assez d'ardeur. En sachant que près de la moitié des contrôles ont concerné des métiers en tension, donc des secteurs pour lesquels il n'y a pas de difficulté de recrutement, a priori. Pour autant, ces contrôles n'accélèrent pas forcément le retour à l'emploi. C'est ce que dit aussi cette étude. 6 mois après qu'ils aient été effectués en 2022, ces contrôles, 49% des demandeurs d'emploi contrôlés avaient retrouvé un job, mais il ne s'agissait d'un emploi durable, donc CDI ou CDD de plus de 6 mois, que dans 17% des cas. Alors même que les modalités de ces contrôles vont évoluer dès l'année prochaine, à partir de cette date, donc 2025, elles seront plus globales, ces modalités. C'est le comportement général du demandeur d'emploi qui sera apprécié, selon un certain nombre de critères. Les contrôles seront aussi plus nombreux. Ils doivent tripler d'ici 2027, en tout cas c'est l'objectif, passant de 500 000 par an à 1,5 million.
Alors, un tiers des chômeurs qui ne recherchent pas activement un travail, est-ce que ça vous choque, Fred Hermel?
Alors c'est vraiment du cas par cas dans ce domaine, vraiment, et c'est toute la difficulté des gens de France Travail, qui est un joli nom d'ailleurs, j'aime bien France Travail, il y a un côté positif dans le changement, moi j'aime beaucoup. Ben oui, parce que vous savez, quelqu'un de 25 ans qui joue avec, et on sait, avec aujourd'hui c'est 6 mois, 6 mois après, pendant 6 mois, il bénéficie du chômage, et puis il recommence, etc. À 26 ans, à 25 ans, on doit travailler en plein temps et ne pas bénéficier de la solidarité collective.
Bah, sauf si tu en as besoin.
Bah oui,
tout le monde ne travaille pas dans un secteur en tension.
Mais non, mais je veux dire, dans ces cas-là, tu touches l'argent, on voit très bien le petit manège, là je trouve normal qu'on sanctionne, qu'on contrôle et qu'on sanctionne. Ensuite, le cas de quelqu'un qui a 55 ans, qui a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise, qui a 50 ans se fait virer, parce que voilà, un plan social, etc., qui essaye évidemment de retrouver un emploi pendant 2-3 ans, et à un moment il n'en peut plus. On lui répète toujours la même chose, il a des entretiens, mais on lui dit, monsieur, vous êtes trop vieux ou vous êtes trop qualifié pour le poste, parce que ça arrive tout le temps, désormais, c'est une galère pour les seniors, entre guillemets. Ben là, je pense qu'on doit être beaucoup plus souple pour quelqu'un qui, à un moment, ne fait pas de recherche active parce qu'il a fait pendant 2 ans et qu'il ne trouve pas de travail et qu'on ne répond pas à ses demandes, donc à ses propositions. Donc, oui, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je pense qu'on ne peut pas sanctionner de la même manière quelqu'un de 55 ans qui est lassé de ne pas avoir de réponse avec quelqu'un qui profite du système à 25 ans.
Oui, et puis de toute façon, encore une fois, on touche au chômage quand on a cotisé. Donc, quelque part, c'est quand même de l'argent qu'on a donné.
Si, par exemple, le nombre de mois de cotisation a été augmenté par le gouvernement, c'est bien parce que pour pouvoir avoir les droits au chômage, c'est bien qu'il y avait des gens qui exagéraient.
Oh, voilà, donc toutes les décisions du gouvernement sont pas forcément basées sur un constat hyper scientifique.
C'est surtout pour économiser de l'argent. Hein. Je pense Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que c'est bien que France Travail donne ce genre de chiffres?
Alors moi, sur la manière dont on donne, là, un tiers des chômeurs ne cherchent pas un emploi. Oui, mais c'est un peu trompeur parce que c'est 17% qui ont été sanctionnés, 18% qui ont été redynamisés, donc il y avait potentiellement besoin d'un accompagnement pour chercher de l'emploi. Et en fait, si on regarde, c'est-à-dire que donc il y a 83% des chômeurs qui cherchent, et c'est relativement stable. Et c'est relativement stable. Et en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on stigmatise des chômeurs. Et alors, je ne vais pas rester que sur le chômeur de 50 ans, parce qu'en fait, à 25 ans, on peut aussi être en grande difficulté, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'expérience, que on ne sait pas bien chercher du boulot.
Mais ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés dans les un tiers de chômeurs, en fait. Donc, le problème, c'est les un tiers de chômeurs qui ne recherchent pas activement.
Oui, c'est pas les chômeurs, le problème. Il y a quand même un effet de stigmatisation du chômage, alors que ça peut être très difficile. On le voit, hein, là, il y a eu plein de fermetures d'enseignes, de fermetures d'usines. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain.
Mais ceux-là ne sont pas concernés par ce titre.
Ils peuvent ne pas être en recherche active parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils sont en choc, parce qu'ils savent pas vraiment comment faire, parce qu'ils l'ont jamais trop fait. Parce que il y a aussi tous les gens qui perdent leur emploi suite à du harcèlement et qui peuvent mettre quelques mois avant de rebondir. Ça arrive quand même dans beaucoup de cas. Donc, effectivement, il faut faire du cas par cas, il ne faut pas stigmatiser les chômeurs parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que 60% des chômeurs ne sont pas indemnisés, que la moitié des chômeurs indemnisés travaillent mais ont des emplois qui sont beaucoup trop courts, précaires pour être comptés, qu'on parle des emplois non pourvus mais ça représente 200-300 000 emplois. Et dont 55% seulement sont des emplois durables, donc 45% ne sont pas des emplois durables. Donc pour les 2,3 millions de chômeurs, ça ne va pas suffire. Donc, de toute façon, on a un problème de chômage. Et il faut se poser la question aussi, d'ailleurs, et stigmatiser les chômeurs, ça permet aussi de ne pas réfléchir à quel a été l'effet du plan de relance du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait en termes de politique publique pour relancer l'emploi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'automatisation de certaines fonctions. De fait, ça va créer du chômage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a reculé l'âge de la retraite. De fait, on a fait rentrer des personnes qui étaient plus âgées dans
la moitié
dans les
des contrôles qui ont été effectués par France Travail, dont on parle là, la moitié ont été faits sur des métiers qui sont en tension.
Voilà,
il y a de la demande.
Oui, mais encore une fois, sur la question des métiers en tension, on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est que d'une part, il y a la question des formations, il y a la question de la localisation géographique.
Quand tu es dans la restauration et que tu es serveur, il n'y a pas trop de formation.
Oui, mais il y a la question de la localisation, c'est pas forcément là où on habite.
D'accord.
Et puis par ailleurs,
apparemment, il y a
aussi
partout.
La question du type de contrat. Si on est vraiment sur du contrat très court, qu'on risque de perdre.
Et c'est pour ça qu'il y a des contrôles, en fait. Et justement, c'est pour voir si la personne, effectivement, elle recherche activement un travail ou si elle ne le recherche pas, tout simplement.
Clairement, ce que dit Pôle emploi.
Si t'habites à Lille et qu'on te propose un boulot à Clermont-Ferrand, évidemment, si tu dis non, il y a une logique.
J'entends ce que tu dis, mais très clairement, selon ces statistiques qui ont été données par France Travail, il y a au moins la moitié des contrôles qui ont été effectués, encore une fois, sur des métiers en tension. Donc, ça veut dire que parmi les personnes qui ont été épinglées comme ne faisant pas suffisamment d'efforts, c'est que clairement, elles avaient la possibilité de trouver un travail et qu'elles ne le faisaient pas.
Alors après, moi, vraiment, je pense qu'il faut faire du cas par cas. J'ai eu des périodes de chômage où à un moment, évidemment, pour bien faire les choses, on envoie des lettres de motivation. On sait qu'on va pas être pris. C'est ridicule. Et du coup, il y a aussi un truc qu'on fait perdre, perdre du temps aux ressources humaines envoyer des candidatures un peu absurdes juste pour montrer qu'on fait. Il y a un moment où on pourrait aussi avoir une pratique intelligente de la recherche d'emploi.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut quand même distinguer, allez, on va dire, comme le disait Fred, des chômeurs qui ont cotisé pendant plus de 20 ans et d'autres qui sont beaucoup plus jeunes et on va dire qui profitent du système, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, évidemment.
Mais le cas que citait Fred sur les personnes d'un certain âge qui n'arrivent pas à retrouver du boulot, elles ne sont pas concernées. Parce que à la fin de leur indemnité, si elles n'arrivent pas à faire, elles versent dans ce qu'on appelle l'allocation spécifique de solidarité.
Oui.
Ils sortent du chômage. Non, mais ce que je veux dire, juste une chose, c'est que les sanctions, elles visent pas ceux qui ne trouvent pas de travail. Elles visent ceux qui n'en cherchent pas.
Oui.
Personne n'est sanctionné parce qu'ils ne trouvent pas de travail.
Non.
C'est ceux qui volontairement ne cherchent pas de travail.
Mais tu comprends que certaines personnes peuvent être lassées à un moment parce que pendant 2-3 ans, quand tu as plus de 50 ans, que tu as essayé qu'on veut pas de toi.
Je finis ma démonstration. C'est que moi, ce qui me choque, c'est quelqu'un qui a le droit à une indemnité, qui est certes le fruit d'une cotisation. Mais qui est surtout le fruit d'une solidarité nationale, parce qu'en cas de déficit, c'est l'argent de l'État,
c'est-à-dire de nous. Enfin, c'est quand même une personne qui a cotisé, donc.
Oui, mais ce qui me choque, c'est il y a un boulot qui correspond à ta formation, qui est pas loin de chez toi, et tu le prends pas. Hein? Ben ça me choque.
Oui, mais sauf que en fait, tu le prends pas, mais ça va durer un an. T'as 55 ans, d'accord? Oui. T'as bossé toute ta vie, etc. Oui. T'as bossé pendant 30 ans.
Oui.
Donc t'as beaucoup cotisé, hein, oui. D'accord? Alors, oui. Avant, tu pouvais toucher 5 ans de chômage. Maintenant, c'est 1 an et demi. Donc là, oui. Déjà, t'as un peu les boules par rapport à un chômeur d'il y a 10 oui. ans. Mais pourquoi pas? Là, derrière, peut-être que t'es fatigué, en fait. Et peut-être que pendant 1 an, et t'as juste envie de te reposer. Et moi, franchement, je le comprends parce que cette personne-là, elle a énormément cotisé. Exactement. Et qu'elle profite de ses cotisations, mais moi, je te le dis, ça ne me choque pas. Ouais, ça ne me choque pas pour quelqu'un qui a 50 ans. Ça me choque un petit peu plus pour quelqu'un qui en a 25. Mais si tu veux, moi, que la personne, pendant 1 an, elle n'ait pas envie de retrouver tout de suite, moi, je peux le comprendre. Et encore une fois, je veux dire, c'est son argent.
Non.
Si la personne qui a cotisé 30 ans, crois-moi, elle coûtera moins cher à la société que ce qu'elle a cotisé. Bah, bien sûr,
non, parce que
si.
Mais non, parce que c'est pas comme ça que notre société, on a décidé de l'organiser. Ça veut dire que, moi, ma retraite, c'est, j'épargne pour ma retraite, alors. Alors qu'en fait, que quand je cotise, c'est pas pour ma retraite, c'est pour les gens qui sont déjà en retraite. Ouais. Quand je cotise au chômage, je m'ouvre pas le droit à une somme pour le jour où je serai au chômage. Je cotise pour ceux qui sont au chômage maintenant.
Oui, mais la personne qui a travaillé 30 ans, elle a quand même le droit de se dire qu'elle a quand même beaucoup cotisé.
Les gens qui ont 50 ans, ils ne demandent pas 2 ans de congé sabbatique payé par le contribuable.
Mais c'est pas un congé sabbatique,
ils demandent
te reposes.
À trouver un travail, ils veulent trouver un travail.
Oui, en fait, je pense que c'est...
Et au bout de leur indemnité, ce qu'ils cherchent à tout prix, c'est de trouver un travail. Ils ne demandent pas à se reposer pendant 2 ans.
Non, mais tu as aussi le droit, enfin je suis désolée, de prendre un peu de temps pour toi quand tu as cotisé pendant 30 ans.
Sors de ce corps, Sandrine Rousseau.
Mais ça n'a rien à voir. Mais non, encore une fois, je distingue le chômeur qui a 30 ans de boîte et celui qui a 2 ans de boîte. Pour moi, c'est pas du tout la même chose et l'âge compte aussi. Parce qu'encore une fois,
ça s'appelle une pré-retraite.
Les conditions, elles étaient 10 fois plus généreuses il y a quelques années. Et là, pour les chômeurs aujourd'hui qui ont 55 ans, c'est vraiment la double peine. Un, ils ont la retraite, ils doivent se taper 2 ans de boulot de plus. Et deuxièmement, ils sont 10 fois moins indemnisés qu'avant. Ben moi, je peux comprendre qu'à un moment, t'aies juste envie un peu de profiter de toutes les cotisations que t'as versées durant tes 30 ans de travail. Ça ne me choque pas.
Exactement. Tu sais que moi, j'ai été au chômage pendant 2 mois. Tout ça pendant le Covid. Obligatoirement, j'ai bénéficié de, parce que j'avais plus mes piges, parce qu'il y avait plus de foot. Donc, j'ai bénéficié de piges pendant 2 mois. Je n'ai jamais eu recours au chômage. Je bosse depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Et ben, j'ai eu cette réflexion qu'avait Estelle en disant, ça m'a fait bizarre, en fait. Je reconnais, ça m'a fait bizarre. Mais c'était automatique. Enfin, tu vois, en plus, j'ai pas fait la démarche. Ah, c'est une entreprise, un journal pour lequel je travaillais aussi, qui voilà, naturellement, qui m'a compensé les piges que vous non versées pendant 2 mois. Au début, ça me faisait bizarre. Et après, je me dis, en fait, Fred, depuis que t'as 18 ans, tu payes et tu ne profites de rien. Et tu payes plein pot, etc. Donc, j'ai pas eu le sentiment de voler la société. Parce que ça faisait des années que je cotisais pour les autres. Et là, c'était 2 mois seulement.
Alors, on a énormément d'appels, hein, au 32-16. On sera avec Benjamin Hamard également, tout à l'heure, notre chroniqueur qui est également militant CGT. Mais tout de suite, on va prendre en ligne Sophie qui nous appelle du Gers, de Riscle dans le Gers et qui est en recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Bonjour Sophie.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Sophie.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Sophie, est-ce que vous faites partie des chômeurs qui recherchent activement un travail?
Ah oui, oui. Bah écoutez, moi c'est vrai que j'ai été licenciée suite à un burn-out.
D'accord.
Et en plus, j'ai problème de santé, donc je suis reconnue travailleur handicapé.
Ok.
J'ai 51 ans passé. Mm-hmm. On habite à la campagne, donc c'est très compliqué déjà pour déplacer. Alors déjà, faut pas parler de transport en commun, c'est impossible.
Oui.
Ensuite, pour trouver du travail dans l'accueil, dans le secrétariat, c'est très compliqué aussi. Mm-hmm. Et j'ai postulé pour au moins une bonne cinquantaine de postes. Et c'est toujours « on vous rappellera ». Alors la phrase « on vous rappellera », je la connais par cœur.
Ouais.
Il faut savoir une chose, parce que moi, mes droits se finissent au 25 avril, mais après, je n'ai droit à rien du tout. Comme je suis mariée et que mon mari travaille, on n'a droit à rien du tout. J'ai droit à mes 500 euros de pension d'invalidité et c'est tout.
Ouais, mais quand vous allez faire comment, Sophie?
Ah ben je sais pas, je continue à postuler. Alors, c'est vrai que comme disait tout à l'heure une de personne, c'est vrai que c'est que c'est sûr qu'il faut pas postuler n'importe quoi. Mais moi, si je suis désolée, je postule pour n'importe quoi parce que j'ai pas le choix, parce que voilà, je vais me retrouver sans rien et je sais pas du tout comment faire. Je postule pour des offres d'emploi. Je sais que j'ai pas le niveau parce que maintenant il faut minimum le niveau bac plus 2 voire plus. Parler l'anglais facilement, c'est des choses que je ne sais pas, mais je postule quand même. Je me dis, ma foi, mais qu'est-ce que je risque? Qu'on me dise non, au point où j'en suis, je ne suis plus à ça près.
Sophie, vous cherchez dans quelle branche? Dans le secrétariat, c'est ça?
Voilà, secrétariat et l'accueil.
Bah merci beaucoup en tout cas Sophie d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite bon courage dans cette recherche d'emploi. Voilà, Sophie, elle recherche très activement
mais
un emploi.
Elle n'est pas concernée par les sanctions.
Non, bien sûr. Non, mais, oui, mais c'est dur de se dire que Sophie, voilà, elle recherche un emploi, elle le recherche activement, elle ne trouve pas, parce qu'encore une fois, effectivement, si vous voulez être serveur dans la région parisienne, ou vendeur dans un magasin, il y a aucun problème. Mais quand vous êtes à risque dans le Gers, bah évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, notamment avec les transports en commun. Merci Sophie en tout cas d'avoir appelé. Fabien, lui, il est conseiller France Travail depuis 4 ans, il nous appelle du Nord. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous et à tous.
Fabien, est-ce que vous corroborez ces statistiques? Un tiers des chômeurs ne recherchent pas activement un travail?
Non, c'est un peu plus fin que ça en réalité. Alors, le découpage des 35% qui fait à peu près 17% de sanctions et 18% de redynamisation, pardonnez-moi, ou l'inverse, on est plutôt là-dessus. Après, moi, je veux juste rapidement mettre en perspective une chose. Qu'est-ce qui amène à ce qu'on appelle un contrôle de recherche d'emploi? Deux choses. La première, soit le picking, soit du picking, j'aime pas les anglicismes, mais force est de constater que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que les conseillers qui font du contrôle, qui ne font c'est leur travail, font du picking sur, effectivement, vous l'avez dit, notamment les métiers en tension, comment avec les codes ROM des métiers, etc. Ça, c'est une première des choses. Et puis, la deuxième, c'est quand les conseillers, comme moi, par exemple, ou mes collègues, décidons que trop, c'est trop, et qu'on estime qu'à un moment donné, il n'y a pas d'acte positif de recherche d'emploi depuis un certain temps. On a déjà rappelé les droits et les devoirs une fois, deux fois, trois fois, bref. Au bout d'un moment, on se dit, bon, là il faut l'envoyer au creux, donc on contrôle de recherche d'emploi, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis,
comment on contrôle, Fabien, comment on sait que la personne elle a envoyé un ou 50 CV?
Alors, c'est là où... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si la personne postule via, par exemple, Pôle emploi.fr ou via un autre site de chez nous qui s'appelle La Bonne Boîte, et que je recommande, par exemple, à notre auditrice qui est passée juste avant, La Bonne Boîte, allez-y, où il y a peut-être Sophie, il y a peut-être des opportunités sur ce site via les candidatures spontanées, parenthèse fermée. Donc, effectivement, si les demandeurs d'emploi postulent via ce canal-là, nous, on a forcément... dans leur dossier, c'est incrémenté systématiquement avec telle date à postuler à telle offre, et puis on a le résultat de la candidature. De même, si nous, on les positionne avec leur accord sur des offres, ou on peut faire également de la promotion de profil.
D'accord.
Donc ça, voilà. En revanche, quand on passe sur d'autres sites, d'autres canaux de recherche d'emploi, même si globalement, les offres sont les mêmes à peu près sur tous les canaux. C'est pour ça qu'on se dit il y a plus d'un million d'offres. Non, c'est faux. C'est des offres qui sont effectivement multipliées à un certain nombre de canaux, mais c'est les mêmes. Quand ils passent par ces canaux-là, là, effectivement, on dit toujours, gardez des mails, garder des choses comme ça, des traces, parce que le jour où on va vous le demander, comment ça se passe un contrôle? Vous recevez une petite convocation qui vous dit bonjour, je suis monsieur ou madame Intel, je suis là pour contrôler le contrôle de recherche d'emploi, je vous programme un rendez-vous dans 15 jours, téléphonique, en attendant je vous envoie un questionnaire que je vous demande de compléter avec l'ensemble des éléments et des recherches que vous avez fait ces 4 derniers mois. Il faut se dire une chose, il n'y a encore pas si longtemps, on remontait sur 12 mois.
Okay.
Aujourd'hui, on remonte sur 4 mois. Quelqu'un qui vient de s'inscrire, on prend l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Vous venez de vous inscrire, vous vous êtes fait lourder de votre entreprise après 30 ans, ou alors vous faites un burn-out qui arrive quand même assez régulièrement.
Exactement.
Et bien du courage aux personnes, mais je vous le dis, personne au bout de 4 mois a fait la moindre démarche quand il sort d'un burn-out.
Bien sûr, vous avez raison.
Entreprise, c'est une évidence. Et je veux dire, 4 mois, c'est même pas 4 mois, c'est même pas 8, c'est même pas souvent 12. Donc il faut pas. Voilà. Donc après, j'écoutais M. Lavrieux tout à l'heure, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais malheureusement, votre réflexion, elle est, à mon sens, beaucoup trop dogmatique, voire même limite. On a l'impression que vous maniez un tableau Excel. Et c'est pas comme ça, la vie. Et moi, si vous voulez, venez une journée avec moi, je vous convoque 10 demandeurs d'emploi de 10 horizons différents, et vous allez voir que ça tient pas. Ça peut pas tenir. On peut pas dire. Il y a un poste, j'ai un 0 là, j'ai un 1, je les mets à 2, enfin j'ai un moins 1, j'ai un 1, je les mets à 2, ça fait 0, c'est super.
Mais
c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mais j'ai pas dit, je suis pas pour sanctionner les gens qui ne trouvent pas de travail. Je suis pour sanctionner les gens qui sciemment ne recherchent pas de travail.
Mais
c'est totalement différent. Et pour votre gouverne, j'ai été au chômage. Inscrit à Pôle emploi pendant 2 ans avec 0 indemnité, malgré le fait, Estelle, que j'ai cotisé toute ma vie en tant que cadre, et tout ça parce que j'avais dépassé le délai d'inscription de 15 jours à cause du Covid. Donc je fréquentais, j'ai vu ça, et dans ma profession, on m'a bien entendu jamais rien proposé. Mais donc voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je suis pas pour sanctionner qui a fait quelqu'un qui fait un burn-out, qui peut pas, il va jusqu'à épuisement de ses droits au chômage, ça me pose aucun problème philosophique. Je dis juste que l'organisation de la société, c'est pas un tableur Excel, est faite ainsi, c'est qu'on n'en a pas pour son argent. C'est-à-dire pas, c'est pas la somme qu'on a cotisée, qu'on a épargnée, qu'on a le droit d'épuiser un jour ou l'autre. C'est pour payer le chômage des autres.
Merci en tout cas Fabien d'avoir été avec nous. Fabien qui est conseiller France Travail depuis 4 ans. Notre invité sur ce débat, c'est Benjamin Hamard. Il est porte-parole CGT du Val-de-Marne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous Benjamin. J'imagine que ça vous a agacé voilà, cette stade de France Travail.
Mais avant que ça m'agace, déjà je pense qu'il faut qu'on s'accorde quand même sur, sur le diagnostic qui est posé. Moi je l'ai lu et je l'ai sous les yeux le dernier rapport de France Travail. Mmh. Il est écrit, je cite, noir sur blanc. C'est donc au total 17% de l'ensemble des demandeurs d'emploi contrôlés, jugés en insuffisance de recherche, qui ont fait l'objet d'une sanction.
Oui, bah ça on l'a dit.
C'est pas qu'on se mette d'accord sur le chiffre.
Non, on a dit 17 qui ont été sanctionnés, 18% ils ont eu besoin d'être redynamisés.
Non mais attendez, moi je viens de vous citer le rapport, donc je pense que.
Bah, nous aussi on l'a lu et, on l'a, et voilà, il y a 17 plus 18, ça fait 35.
C'est écrit noir sur blanc, faut être factuel, hein, les faits sont toujours têtus.
Bah, c'est ce qu'on fait.
17% des chômeurs qui ont été sanctionnés.
Oui, on est d'accord.
Mais contrôlés, s'il faut être précis.
Et pour le reste du tiers, ce sont des chômeurs qui auraient dû être remotivés.
Et il me semble que le principe dans l'émission, c'est que quand l'invité parle, on le laisse terminer son raisonnement.
Vas-y,
même si ça ne plaît pas trop, on va quand même me laisser développer jusqu'au bout mon raisonnement. Ce que je dis, et qui est écrit sur le rapport de France Travail, c'est que 17% des chômeurs ont été sanctionnés, et que donc 83% des autres ne l'ont pas été. C'est ça la réalité factuelle. Donc si on veut poser une question, faut déjà donner le bon chiffre. Et mieux, il est signalé que lorsque les contrôles sont aléatoires, c'est 91% des chômeurs contrôlés qui ne sont pas sanctionnés. C'est ça la réalité. Et moi je suis là pour donner d'autres chiffres qui sont exacts et reconnus par tous parce qu'ils sortent de France Travail. C'est 9% plus de 30% des chômeurs qui touchent une indemnisation.
Oui, mais ça on l'a dit aussi. Hein.
Ah, mais, ben donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que seule une minorité des chômeurs touche une indemnisation, une ultra majorité de chômeurs sont dans les clous du point de vue des critères de France Travail.
Bah oui, oui.
Donc ça veut dire qu'en réalité, et ces chiffres, je l'ai entendu tout à l'heure sur le plateau, ces chiffres sont stables depuis des années. Autrement dit, depuis des années, on contrôle de plus en plus les chômeurs, on leur pond réforme de l'UNEDIC sur réforme de l'UNEDIC pour une régression de leurs droits. Et pourtant, eux, dans leur pratique, ils sont toujours ultra majoritairement dans les clous.
Oui, donc ça sert à rien tout ce que fait le gouvernement, c'est ça que vous voulez dire en fait.
Eh bien bien évidemment, ou plutôt, disons les choses autrement.
On aurait pu le dire plus vite.
Le postulat de départ du gouvernement, c'est qu'en fait, les chômeurs, dans leur grande majorité, sont responsables du chômage parce qu'ils ne cherchent pas de travail. C'est démontré enquête après enquête que c'est faux. Mais ça n'est pas grave, on continue sempiternellement à reproduire les mêmes politiques. Et à stigmatiser toujours les mêmes. D'ailleurs, vous le savez très bien, Gabriel Attal a proposé une énième réforme
baisse de la durée d'un
une troisième. Ouais. Et cette troisième réforme, elle va dans le même sens. Et c'est insupportable, tout simplement.
Bah, merci beaucoup, Benjamin Hamard, d'avoir été avec nous. Benjamin, qu'on retrouvera évidemment très vite dans Estelle Midi, très rapidement.
Ce qui est intéressant sur la durée du chômage, c'est que par exemple, en Belgique, il y a le chômage à vie, et il y a moins de chômage qu'en France. Donc finalement, ça n'a pas vraiment d'impact sur la lutte contre le chômage.
Mais de toute façon, on a
pressurisé les chômeurs, ça n'a pas forcément d'impact. Ça peut avoir un impact sur les salaires, parce qu'on accepte des boulots à des salaires plus bas.
Et on attend de voir l'étude d'impact, hein, quand même, sur cette réduction de la durée d'indemnisation, parce qu'à un moment, on va peut-être savoir si ça marche ou pas. Ce serait bien d'avoir quand même quelques chiffres, parce que là, on risque d'avoir une nouvelle baisse de la durée d'indemnisation, mais sans savoir si la baisse d'avant a marché, ce qui est quand même un petit peu étrange. On termine avec des messages, Rémi.
Allez, j'ai ce message de Tristan qui nous dit « Je suis directeur régional dans le commerce et ces statistiques ne sont pas surprenantes pour moi. Nous sommes en difficulté de recrutement depuis plusieurs années, avec des CDI à temps complet toujours vacants. Il faut remettre la France au travail. »
Un tiers des chômeurs ne cherchent pas d'emploi activement. Est-ce que ça vous choque? Ça donne quoi ce sondage?
C'est choquant pour 56% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Mais c'est pas une très très large majorité. Allez, on va dire que c'est dans la marge d'erreur. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si l'état de nos routes est désormais inacceptable. On parlera de ces 500 euros d'amende pour le port d'une arme blanche. Est-ce que c'est une bonne mesure? Et puis François Ruffin ferait-il un bon opposant à Marine Le Pen? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et tout de suite c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Avec Rémi Barré, Jérôme Lavrieux, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. On démarre tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. L'état de nos routes nationales est-il inacceptable alors que de nombreuses routes de France se dégradent depuis quelques années, faute d'entretien? Eh bien, vendredi dernier, c'est carrément toute une portion de l'autoroute A13 qui dessert Paris qui a été fermée à cause de fissures découvertes sur les voies. Un déclin de notre pays que déplore l'avocat des GG, Charles Consigny.
C'est le syndrome de notre déclassement, le symptôme plutôt de notre déclassement qui atteint y compris ça et qui atteint tout le reste, je pense, et d'une mauvaise utilisation des deniers publics puisqu'on finance tout et n'importe quoi. J'ai vu par exemple, c'est un exemple parmi mille, mais j'ai vu passer là que la mairie de Paris avait, on parlait des trans tout à l'heure, accordé une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros à une association de lutte contre la transphobie en Équateur. Et ça n'est pas un fake. Donc, consacrons nos budgets, notre argent à ce qui est quand même utile pour nous. Et je pense que globalement, il y a une très grosse réflexion à avoir sur le fléchage des dépenses publiques.
Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour l'état de nos routes, Jérôme Lavrieux?
Moi, je pense qu'il ne faut pas en mettre plus et je pense qu'il faut mieux l'utiliser et que chacun fasse selon ses compétences. Les routes départementales, c'est de la compétence des départements, c'est à eux de l'entretenir. Les routes communales, c'est aux communes de dépenser de l'argent. Et parfois, il faut faire un arbitrage entre le énième feu d'artifice et réparer la rue qui traverse le village. Et puis l'État, les autoroutes non payantes, c'est du ressort de l'État. Et d'ailleurs, on critique toujours les autoroutes payantes. Elles sont dans un état extraordinairement efficace, celles en France. Et quand c'est soi-disant gratuit, ben c'est là où ça finit par nous coûter très cher, parce que pendant des années, l'État s'est désengagé. Vous savez, en Belgique, il n'y a pas d'autoroute payante. Hein. Et il y a un ministre belge qui, une fois constatant l'état des autoroutes, avait dit « Vous savez pourquoi les autoroutes sont éclairées la nuit en Belgique? C'est pour qu'on puisse voir les nids de poules ». Donc vous imaginez dans quel état c'est. Je pense que chacun doit se concentrer sur ses compétences. Et je suis pas souvent d'accord avec Charles Consigny quand il dit quelque chose, mais quand il dit on peut pas subventionner tout.
Ah oui.
Quand c'est pas dans nos compétences et être pris en défaut quand c'est dans sa compétence. L'état de la chaussée à l'intérieur de Paris, c'est de la compétence de la ville de Paris. Si elle le fait pas, eh ben c'est pas un problème de budget. C'est parce que peut-être elle dépense de l'argent à faire autre chose que ce qui est de sa compétence.
Et surtout, c'est hyper dangereux pour les deux roues, notamment.
C'est hyper dangereux pour tout le monde.
Un deux roues qui prend un nid de poule, c'est fini, quoi.
Oui, Donc, bien entendu.
On met en danger la sécurité des automobilistes et des motards.
Vous avez eu sur la 13 la pollution que ça engendre, 370 km de bouchons. Oui.
J'ai été bloqué samedi et je me suis demandé s'ils allaient me faire payer le péage ou pas. Parce qu'en fait, il y a un embranchement du péage, enfin du duplex, et je me suis retrouvée bloquée, j'ai pas vu, bref. Et je me suis dit, s'ils me font payer le péage là, je vais être un peu embêtée, étant donné que j'ai quand même mis une heure et demie pour faire 8 km, ce que je trouve plutôt trop, en fait. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que on doit consacrer plus d'argent pour nos routes? Est-ce que ça doit être une priorité?
Alors, je sais pas si ça doit être une priorité, parce que par exemple, moi, j'aime bien aussi qu'on investisse dans les transports en commun. Il faut avoir des routes en bon état. Ensuite, moi, je ne comprends pas tellement ce rapprochement entre des subventions à des associations qui permettent de lutter contre les discriminations et l'état des routes.
En Équateur.
C'est
en Équateur. C'est les impôts des Parisiens qui servent à financer une association en Équateur.
Oui, mais on peut aussi dire que Paris, on est une ville qui rayonne à l'international pour la défense des droits. Il y a probablement d'autres dépenses qu'on peut couper que dans ce domaine-là. Ensuite, je suis pas sûre qu'il y ait des nids de poules à Paris. La route.
Il y en a plein. Ah bah sur le périph.
Et d'ailleurs, on devrait moins conduire à Paris, ça abîmerait beaucoup moins les routes.
Pourquoi on conduit beaucoup moins à Paris?
Oui. Hein. En tout cas,
on conduit beaucoup plus lentement.
Et tant mieux. Sur la route qui est fortement dégradée, je ne pense pas que ça relève de Paris, non?
Non, c'est une autoroute. C'est
voilà, d'accord.
Là, pour le coup, c'est pour ça
que du coup, le rapprochement me paraissait un peu bizarre.
Les GG, ce matin sur RMC, 500 euros d'amende pour le port d'une arme blanche. Est-ce une bonne mesure? C'est une expérimentation qui va être lancée dans 4 grandes villes de France par la direction des affaires criminelles. Toute personne qui portera une arme de catégorie D, telle qu'un poignard, une matraque ou encore une bombe lacrymo, se verra attribuer une amende de 500 euros. Un montant pas assez élevé pour la coach de vie des GG, Joëlle Dagosséry.
Je suis tout à fait d'accord pour cette amende. Je trouve même qu'elle n'est pas suffisant, honnêtement. Je trouve que 500 euros, vu ce qu'on traverse, c'est que dalle. Un minimum de 1500, ça me paraît raisonnable. Et encore. Ceci dit, dans la catégorie des armes qui sont mises dans cette amende, je m'inquiète quand même de la bombe lacrymo. Nous, les femmes, on se balade pas avec des canifs ou des poignards.
Bien sûr. Donc, tu voudrais faire la distinction.
Ouais, j'aimerais quand même qu'on fasse attention, parce que c'est notre outil entre guillemets de défense. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça dans le sac. Voilà, donc j'aimerais qu'on examine un petit peu les catégories d'armes. Mais sinon, sur la proposition en elle-même, je suis complètement d'accord et je trouve que 500 euros, c'est vraiment pas assez.
Est-ce que c'est une bonne mesure, 500 euros d'amende, pour le port d'une arme blanche, Fred Hermel?
Je me pose quand même quelques questions sur la faisabilité. C'est-à-dire que tu es dans la rue et un policier va venir te voir. Bonjour monsieur. Montrez-moi vos poches. Est-ce que vous avez la guillole, un canif? Voilà, enfin, j'ai du mal à voir comment ça va être contrôlé. C'est pour ça, oui, il faudra quand même qu'il y ait certains indices. Donc, bien entendu qu'il faut. Bien entendu que.
Bah, en fait, à mon avis, si t'es contrôlé interdit, pour n'importe quel délit, on fait tes poches. Fais tes poches. Et puis, si t'as un Opinel, tu prends 500 euros.
Oui, mais dans l'absolu, tu peux être contrôlé pour ça. À partir du moment où il y a une loi qui te dit
t'auras plus le droit d'en avoir.
De toute façon, on n'a déjà pas le droit d'en avoir. Donc, mais c'est pour ça, ça me paraît la mesure. Dans l'absolu, elle paraît logique, mais c'est dans l'application que ça me paraît un petit peu ridicule. Et je suis d'accord avec Joël sur les bombes lacrymo. Franchement, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des bombes lacrymo. Alors, les bombes au poivre sont autorisées.
Exactement.
Mais les bombes lacrymo, mais je comprends qu'une bombe lacrymo soit nécessaire pour pas mal de gens qui rentrent tard le soir, qui sont dans les transports en commun, etc.
Mais c'est interdit.
Même si tu l'utilises pas, ça peut être un effet de te rassurer quand même à certains moments de la journée.
Anne-Sophie Saint-Père.
Oui, alors en fait, c'était déjà une interdiction. Que cache l'amende forfaitaire délictuelle, c'est la misère de la justice. C'est-à-dire que pour des délits, plutôt que de le faire traiter par une procédure judiciaire, on le fait traiter par les forces de l'ordre directement sur le terrain, ce qui pose plein de problèmes et qui d'ailleurs pourrait être contesté après. Et en fait, c'est vraiment le cache-misère de il n'y a plus assez de moyens dans la justice qui est engorgé. Donc on met cette responsabilité.
Il ne va pas aller dans un tribunal quelqu'un qui a juste un Opinel dans sa poche.
Ça relève du délictuel, pas un Opinel parce qu'il y a une question de longueur de la.
Tu grilles un feu rouge, tu vas pas au tribunal.
Non, parce que c'est de la contravention.
Bah oui.
L'amende forfaitaire délictuelle, c'est dans le nom, c'est pour s'appliquer au délit. À partir du moment où tu étais dans le délit, tu devais passer dans le circuit judiciaire.
Oui, mais c'est une amende. C'est comme une contravention.
Non, il y a plein. Oui, mais il y a plein.
Contravention pour un délit.
Non, je suis désolée. On va refaire la base du droit pénal. Il y a les contraventions, les délits et les crimes. Pour des délits, tu peux être passible d'une contravention, mais par contre, ça passe devant le tribunal. Et c'est là aujourd'hui, on est en train de faire passer
les tribunaux.
Bah oui,
c'est bien.
Mais le problème, c'est que là, encore une fois, et j'en parle souvent, si on veut avoir une bonne justice, il faut avoir les moyens de la justice. Et l'amende forfaitaire délictuelle, c'est le pansement parce qu'on n'a pas assez de moyens dans la justice. Et voilà.
Jérôme Lavrieux.
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne mesure, puisqu'auparavant, on contrôlait quelqu'un qui avait un couteau, s'il n'avait pas commis quelque chose d'autre. Vu le temps que prenait la procédure, le mec, il était convoqué dans 18 mois ou 24 mois après. Ça n'avait aucun sens. Donc, autant le faire là. C'est plutôt une bonne administration de la justice, plutôt que de mobiliser le type qui va faire le PV, la convocation au tribunal que tu vas recevoir en recommandé, qui va coûter une fortune aux contribuables.
Que le contrevenant paye.
Oui, c'est bien l'amende forfaitaire
délictuelle, elle existe déjà l'usage de cannabis.
Bien sûr.
Il y a 37% des amendes qui sont payées. Donc,
oui. Et une fois que tu es condamné par un tribunal qui t'aura convoqué dans 18 mois, 24 mois, qui va te condamner à 500 euros.
Tu vas pas les payer
d'amende, tu te poses pas la question si tu vas les payer ou pas. Donc ça va nous coûter double.
Mais c'est pas la panacée.
Ça, une mesure qui permet de désengorger les tribunaux, parce que les tribunaux ont autre chose à foutre, heureusement. Même si on avait 10 fois plus de juges, ils ont autre chose à faire que ça, pour quelqu'un qui n'a pas fait l'usage de cette arme-là. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et même s'il y a 30%, que 30% des gens qui le payent, ça fait déjà 30% des gens qui le payent. Et les autres qui se disent, maintenant, je suis rentré dans un fichier parce que je me suis fait gauler et que j'ai pas payé l'amende.
C'est pas je suis rentré dans un fichier, c'est inscrit au casier judiciaire. Et c'est là aussi que ça pose des questions sur le fait de ne pas passer devant un juge.
Les GG ce matin sur RMC. François Ruffin ferait-il un bon opposant à Marine Le Pen? Révélé par le journal Libération, un sondage indique que le député de la France Insoumise se qualifierait facilement au second tour de la présidentielle et aurait même des chances de l'emporter face à Marine Le Pen. Une victoire à laquelle croit Toumba. Il est auditeur RMC, il témoignait chez les GG ce matin.
Pour moi, il peut battre Marine Le Pen en présidentielle, parce que c'est un candidat qui est axé vraiment sur son côté humain, qui est vrai, qui dit des choses qui sont sensées, qui a un discours qui est correct, pas trop dans tout ce que la France insoumise fait ces dernières années, en fait. Monsieur Ruffin, c'est quelqu'un qui est calme, qui est droit dans son discours, qui est droit dans ses bottes. D'accord. Contrairement à l'ensemble des députés de la France insoumise, que ce soit
et il incarne bien le pays.
Oui, totalement.
Alors, François Ruffin ferait-il un bon opposant à Marine Le Pen, Fred Hermel?
Sans aucun doute, oui, bien sûr, c'est un très bon politique. Mais est-ce que la France insoumise va le laisser se présenter? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va laisser? Ça serait très compliqué. Je pense qu'il s'il se présente, parce qu'il y a une réelle possibilité, ce sera en tant que dissident de la France insoumise. Parce que Jean-Luc Mélenchon...
Après, il a une bonne cote auprès de la gauche.
Oui, il a une très bonne cote, parce qu'il y a sûrement des socialistes, des vieux socialistes comme moi, qui ne trouvent plus de vrais candidats à gauche, qui jamais ne voteraient Mélenchon, mais qui pourraient voter pour un Ruffin, parce qu'il a un côté un peu social-démocrate aussi, un peu plus rouge, mais quand même un côté sérieux. Et c'est pas un dogmatique.
C'est quand même la France insoumise.
C'est quand même France Insoumise,
social-démocrate.
C'est pas une gauche molle, quoi.
Et excuse-moi, entre Mathilde Panot et François Ruffin, je veux dire, c'est deux partis différents.
On est d'accord, mais
franchement,
je suis pas sûr qu'on puisse se qualifier de social-démocrate quand même.
Mais les social-démocrates voteraient pour lui. S'il n'y a pas de vrai bon candidat à gauche, franchement.
Ça fait beaucoup de si, hein, dans ton
argumentation. Oui, je sais, ça fait beaucoup de si. Mais le problème, c'est qu'il ne peut le faire qu'en tant que dissident, parce que quelqu'un doute que Jean-Luc Mélenchon ne va pas se présenter?
Bah, tout dépend. Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore dit qu'il se présenterait à la prochaine présidentielle. Bah, il l'a pas dit.
Mais il fait tout pour tuer tous les autres.
Il ne se présenterait pas.
Non, mais François, il n'a rien dit. Donc, on n'est pas obligé de.
Tu penses vraiment qu'il y a un doute là-dessus?
Ah oui, moi je pense, oui.
Ah ben. Quand tu vois, dès qu'il y a une tête qui ressort un petit peu, paf. D'ailleurs, chaque fois que François Ruffin a voulu critiquer un petit peu, etc., il a été rapidement replacé dans le rang.
Hein. Ouais, il est resté dans le rang.
Et il est resté. Ah, oui, parce que pour l'instant,
il attend
pour sortir du bois.
Voilà, il va vite bien prendre son indépendance, tu verras. Anne-Sophie Saint-Père, voilà, François Ruffin, est-ce que c'est le meilleur candidat de la gauche pour vous aujourd'hui?
Alors moi, je suis vraiment nulle dans ce type de pronostic, donc j'ai envie de dire, oui, d'après le sondage, ce serait un très bon candidat, et pourquoi pas? C'est juste, ça me paraît extrêmement tôt, mais pourquoi pas? Oui, effectivement, je pense que s'il y a une idée de réavoir une gauche au deuxième tour de l'élection, alors ce qui est un peu terrible, c'est qu'on est déjà en train de prédire que ce serait automatiquement le Rassemblement National en deuxième candidat, donc la droite a disparu dans le.
La droite a disparu, oui.
Mais,
et la gauche aussi?
Oui,
la gauche et la droite ont disparu. Oui, c'est.
Mais en tout cas, ça pourrait. Manifestement, ça pourrait être un bon candidat. Ensuite, moi, j'ai horreur des prédictions je me garderai bien d'en faire.
On est très loin de là.
Jérôme Lavrieux, il a ses chances, François Ruffin.
Mais si on écoute l'auditeur, il aime bien Ruffin tellement il trouve que Mélenchon est grave. C'est ce qu'il nous dit. Non, il est pas comme Mélenchon. Du coup, je l'aime bien. C'est l'effet miroir. L'autre est tellement pire, comme diraient les enfants, que je prends le moins pire. Enfin, moi, de se dire que si on a comme seul choix le choix de voter entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ça va être compliqué à vivre. Hein. Donc, je préfère qu'on ait le choix entre. Moi, j'ai toujours pensé qu'un pays doit être dirigé par des gens plutôt modérés. Ça évite les embarder malgré tous leurs défauts.
Après, le programme LFI, si on regarde, c'est le programme de Mitterrand en 80. C'est pas non plus.
Oui, on est en 2024.
Mitterrand qui a eu plusieurs périodes de sa vie.
Oui, mais
je
ne
suis pas sûr que le
programme. J'aimerais quand même relativiser le côté extrême gauche.
Dans le Nord. Non. Alors que c'est Mitterrand qui l'a fait sans aucun problème.
Je te rassure, je ne pense pas que Ruffin arrivera le couteau entre les dents. N'ayez pas peur.
C'est ce qu'on verra, peut-être.
Sinon, il aura une amende de 500 euros.
Il ne faut pas oublier quand même que Ruffin a fait le même collège catholique qu'Emmanuel Macron à Amiens plus. Hein. Ce n'est pas un rouge-rouge.
Bon, c'est pas parce qu'on a fait un collège catholique qu'il va être rouge.
Il a fait le même collège catholique.
D'accord, mais ce n'est pas lui qui a choisi son collège, c'est ses parents.
Mais je veux dire...
Non mais il a fait le choix d'aller à LFI.
Oui.
Il n'a pas fait ses parents qui l'ont inscrit à LFI.
Il est toujours membre de la France Insoumise, dirigé actuellement par
Jean-Luc Mélenchon. Et on attend son commentaire sur les derniers propos de Mélenchon qui a comparé un président d'université à un nazi.
On parlera ça dans les avant-cartes avec Rémi Barré tout à l'heure. Apolline Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous prêt à changer vos habitudes au petit déjeuner? Que ce soit café, thé ou chocolat, le réchauffement climatique va peut-être nous obliger à changer nos habitudes alimentaires et le lait consommé par quasiment tous les enfants est particulièrement menacé. Les explications ce matin avec Martin Bourdin.
Est-ce que ça vous dit un peu de lait de chameau pour accompagner vos céréales ou vos tartines le matin?
Non. Moi, je suis.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
En tout cas, on aura peut-être bientôt pas le choix d'en boire du lait de chameau puisque c'est peut-être le lait du futur. Tout ça à cause du changement climatique. En fait, les vaches ne seront plus forcément aptes à survivre dans certaines zones du monde. Alors qu'on le sait, pour les chameaux, évidemment, la chaleur, ça pose moins de problèmes. Donc, les bébêtes à bosse utilisent aussi moins de ressources pour produire le lait que les vaches. Et donc, oui, il va peut-être falloir s'habituer au lait de chameau. Ce n'est pas forcément plus mal. Hein. Il contient plus de vitamine C et de fer que le lait de vache. Donc, c'est meilleur pour la santé.
Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines conséquences du changement climatique qu'on n'avait pas comme ça anticipé, comme boire du lait de chameau à la place du lait de vache. Oui, Fred,
on a interdit le défilé de chameau dans Paris.
Bah oui.
Eh ben alors, il faut. Les écolos, là, accordez-vous, hein. C'est à cause des écolos, le défilé de chameau.
T'interdis le défilé de chameau, mais tu autorises le lait de chameau, ça n'a rien à voir.
Les chamelles.
Pour être précis,
les chamelles, ça va pas être. Oui, tu as raison, Bien sûr, c'est bien d'être précis. Bien sûr, sinon ce serait compliqué. Il y aurait pénurie de lait, certainement. RMC s'engage avec vous, ce sera dans un instant, avec une enquête sur les assurés d'une mutuelle auto qui ne touchent plus de remboursement alors qu'ils payent leur cotisation, évidemment. C'est ballot. Et puis, à 14h, on parlera de vacances. Pour vous, les vacances en village vacances, justement, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Faites-nous un petit retour d'expérience comme ça. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, on va vous aider dans l'émission. RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et avec Amélie Rosic aujourd'hui. Et aujourd'hui, Amélie, on parle santé et mutuelle.
IRP Auto, plus précisément. Alors, je suis à peu près sûre que vous, ça ne vous dit rien. Mais si vous travaillez dans le domaine de l'automobile, vous la connaissez forcément, puisque c'est la mutuelle des professionnels du secteur. Et depuis quelques mois, rien ne va plus. Plus de remboursement, plus de rente versée, impossible de les contacter. Ce sont les assurés qui nous ont alertés. Ils se sont regroupés sur une page Facebook qui compte plus de 320 membres et qui ne cesse d'augmenter. Celso, par exemple, il a 62 ans. En février, il se fait poser une couronne dentaire, jusque-là assez classique comme soin. Depuis, il attend désespérément les 280 euros que doit lui verser IRP Auto.
Aujourd'hui, je paye 88,30 € de mutuelle par mois. Par contre, au niveau traitement de dossier et réponse au client, c'est à leur bon vouloir. C'est pas normal. C'est pas ce que nous, on attend d'une mutuelle, si vous voulez. Surtout qu'on parle quand même de soins, on parle pas d'aller chercher une baguette. On n'a pas tous les moyens non plus d'avancer les fonds, donc c'est très compliqué.
Compliqué, du coup, Celso a fait un signalement sur le site du gouvernement, vous savez, Signal Conso, sur lequel vous pouvez alerter par rapport à des entreprises. Et donc, c'est une mutuelle, c'est une entreprise. Et puis, des dizaines d'autres assurés ont fait pareil. Pour certains, ils attendent des remboursements depuis décembre et non pas depuis février. Sauf que rien ne bouge, c'est pour ça, évidemment, qu'ils nous ont contactés.
Mais Amélie, c'est un grand groupe, IRP Auto?
Oui, c'est un grand groupe qui compte quand même 750 collaborateurs et surtout 150 000 entreprises adhérentes. Résultat, c'est un groupe qui gère la santé quand même de 350 000 retraités ou salariés. Donc, quand même, ça compte. Okay. Hein. Solène Leroux les a donc évidemment contactés. L'entreprise dit être consciente des désagréments occasionnés. Ah, ça c'est sûr. Et tout ça, c'est la faute au changement de système informatique mi-décembre, nous dit-on.
On a ça une fois tous les deux jours.
Voilà. L'ancien logiciel a dû être fermé les 15 derniers jours de l'année dernière, ce qui a créé un engorgement, en fait, un volume important de dossiers en attente et des délais de traitement considérablement prolongés. Et mauvaise nouvelle, on est 4 mois plus tard, ce n'est pas fini. Je cite, des interventions quotidiennes perturbent encore nos services, avoue le groupe, qui prévoit un retour à la normale d'ici la fin du mois. Et évidemment, vous savez qu'on va vérifier tout ça.
Oui, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, en espérant qu'IRP Auto respecte ses promesses. Mais alors pour Celso, alors il va être obligé d'attendre encore plusieurs mois?
À votre avis, Estelle?
Non, je dirais non.
Eh bien, évidemment que c'est réglé. RMC avec vous est arrivé par là. Et nous avons transmis son dossier à la mutuelle. Il a été contacté dans la foulée. Et puis, quelques jours plus tard, la mutuelle a remboursé.
Eh bien, génial!
Évidemment. Donc, Celso a récupéré les 280 euros que lui devait IRP Auto. Et ça fait du bien au portefeuille, nous a-t-il dit. Franchement, on le comprend particulièrement en ce moment.
Et bravo, Amélie, d'avoir une nouvelle fois résolu un cas dans Estelle Midi. On parle de quoi demain?
On parle logement social indécent et des bailleurs qui n'interviennent pas toujours comme il faut alors qu'ils sont contraints de le faire.
Ouais, ça, c'est des dossiers qu'on a souvent dans Estelle Midi. Et si vous aussi, vous voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes, vous n'hésitez pas. RMC avec vous, @rmc.fr. Et puis, bien sûr, pour trouver Amélie en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Amélie, vous allez passer vos vacances en village vacances?
Je déteste.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, vacances veut dire dépaysement, rencontre avec des paysages, une culture, des gens.
Il y a des paysages. Hein.
Et
bah si, il y a une culture, il y a une culture de village vacances.
Oui, il y a une
c'est
culture.
Ouais. Ce n'est pas votre culture, c'est tout.
C'est ça.
Mais n'en dégoûtez pas les autres.
Non, c'est pas ma culture du village vacances. Non, mais après j'ai la culture sac à dos et partir à l'arrache. Donc forcément, ça va pas trop avec le village vacances. Mais après, il y a des goûts pour tout le monde.
Ne vous excusez pas. Hein? Parce que nous allons parler des villages vacances, justement, dans un instant.
Mais c'est super, je suis sûre que vous adorez.
Sur RMC,
je suis
sûre que vous adorez. Est-ce l'enfer c'est ou sûr, le paradis, les villages vacances, en tout cas, ça cartonne. Faites-nous un petit retour d'expérience, tiens, de vos vacances en village. Dites-nous si ça s'est bien passé ou pas. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.